les jardinières.
C'est déjà la fin pour le mois de janvier, un pas de plus en direction du printemps, de quoi réjouir les jardiniers. Et si vous aimez le jardinage, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et merci à vous de nous parler du printemps, ça nous met en joie dès le matin comme ça.
Oh ça c'est gentil. Et c'est en compagnie de Fabrice Rondet que nous allons passer une heure. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Fabrice Rondet, vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy. Merci d'être avec nous ce matin.
Et merci à vous, chez vous, d'être avec nous dans les jardinières. Votre émission de jardinage du samedi matin qui commence maintenant. Soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Le week-end s'annonce sec avec des températures positives en journée. Fabrice, est-ce que ce week-end, on peut par exemple encore tailler ses haies?
Alors oui, on est en plein dans la période des tailles, que ce soit les haies. Après, on a aussi tout ce qui est fruitier. C'est le gros boom pour ça aussi, principalement maintenant sur ce premier trimestre. On a aussi tout ce qui est arbustif. On a aussi les massifs pour tout ce qu'on a fait au niveau des plantations vivaces. On peut regarder pour nettoyer les inflorescences qu'on n'aurait pas fait, déblayer les feuilles aussi dans ces massifs pour apporter de la lumière et puis aussi les dégager de tout. Et puis après, on a aussi tout ce qui est petits fruits, toutes ces choses-là, oui, bien sûr.
Et puis Fabrice, pour ceux qui n'ont pas de haies, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au jardin ce week-end?
Ben, maintenant, on est plutôt dans une phase où c'est qu'on va entretenir par la taille, nettoyer les feuilles, refaire un petit peu, redégager un petit peu tout ça, voir si l'hiver n'a pas eu de dégâts au niveau des plantes. Après, ce qu'on va faire aussi, on va profiter un petit peu de la chaleur de nos foyers aussi pour éventuellement repenser un petit peu les aménagements extérieurs pour leur donner un petit peu du sang neuf. Améliorer tout ça, rapporter des couleurs sur des plantes qu'on aurait éventuellement repérées, soit pour leur feuillage, soit pour leurs fleurs, mettre un petit peu plus de relief, de dynamisme. Et puis après, comme ça, on pourra démarrer sur mars-avril avec ces nouvelles plantations, ces nouveaux massifs pour redonner un visage nouveau.
Merci beaucoup Fabrice, vous restez avec nous bien sûr jusqu'à 8h pour répondre à nos questions mais également à celles de nos auditeurs. Des questions que l'on attend comme chaque samedi matin par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site. Vous allez sous l'onglet émissions, questions aux jardinières avec la possibilité d'y joindre une photo.
Et en plus de répondre aux questions, vous allez nous parler de transplantation d'arbres. Alors, qu'est-ce que c'est et comment on procède? Les réponses juste après une pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Quand on parle de transplantation, on pense en premier lieu aux organes de l'humain et pourtant, ça se pratique également au jardin. Fabrice Rondet, quand on est un paysagiste qui parle de transplantation, de quoi est-ce que vous nous parlez exactement?
En fait, c'est assez simple. C'est juste, comme on l'a dit avant, quand on repense un jardin, par exemple, on va mettre un engin de jeu pour ses enfants en place ou alors on va redessiner un massif et puis on s'aperçoit qu'une plante est pas au bon endroit ou alors que la plante que l'on va mettre va prendre un peu trop de volume et puis il faut mettre un peu de la distance. On peut tout simplement retirer cette plante de son endroit avec un maximum de système racinaire et la bouger dans un endroit où c'est qu'elle sera à sa place pour pouvoir faire ce que l'on veut. Donc c'est la prise en main d'une plante complète et de mettre tout en fonction pour un bon redémarrage de celle-ci.
Mais est-ce qu'on peut transplanter un arbre de quelle que soit sa taille et son âge?
Alors ça dépend en fait de quand la dernière fois il était planté. Ça dépend aussi de quel type de plante il s'agit. Parce que toute plante a un système racinaire propre à elle qui permet ce travail plus ou moins facilement. Et puis, ça dépend aussi de la nature du terrain. Parce qu'un terrain naturel, riche en profondeur de terre, va nous faciliter la tâche. Mais si on est sur un terrain, par exemple, avec très peu de terre, et puis tout de suite sur de la roche, on aura quelque chose qui va accentuer la difficulté pour la récupération d'un maximum de mottes avec toute sa racine.
Et justement, ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte avant de déplacer un arbre, par exemple. On va déjà creuser son futur trou et se dire, ah ben là, je peux le mettre parce qu'il y a de la terre ou pas parce qu'il y a de la roche.
Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, quand on va planter un arbre, effectivement, quand il s'agit du tout départ, quand on va planter un arbre, on va définir ces choses-là pour être sûr que tout se passe bien au niveau de son développement dans les années à venir, pour que ce soit une plantation qui dure plusieurs décennies et puis pas que ce soit du court terme. Et quand on fait une transplantation, si on arrive chez un client, on essaye justement de savoir, si ce n'est pas nous qui l'avons planté, on essaye de savoir quelle est la nature du terrain, quand il a été planté, quelle profondeur de terre il pourrait y avoir. Et ces indices-là nous donnent, par rapport à nos connaissances à nous de la plante, nous donnent après le reste des petites choses qu'on doit savoir pour pouvoir approcher cette plante et faire le travail dans les règles de l'art.
Fabrice, vous parliez il y a quelques instants par rapport à la transplantation de l'arbre, depuis combien de temps il devait être planté? Est-ce que c'est une histoire de racines simplement, ou est-ce qu'un arbre, on ne peut pas le déplacer tous les 6 mois juste parce qu'on a envie de le déplacer?
Alors, il est vrai qu'une plante que l'on transplanterait trop fréquemment, on pourrait l'affaiblir tout simplement. Donc, par contre, si on laisse trop de temps s'écouler, on augmente la difficulté de transplantation, tout simplement parce que la plante, en poussant, la racine va s'allonger. Et tout ce qui prend dans le terrain l'eau et la nourriture se trouve dans les extrémités des racines. Donc plus on va couper les racines loin de la plante, plus on a des chances de faire redémarrer cette plante correctement. Tandis que si on coupe les racines avec une transplantation qui a été faite régulièrement, une plantation qui a été faite il y a peu de temps, on va avoir une racine qui sera peu allongée, donc on pourra récupérer un maximum de systèmes radiculaires qui approvisionnent cette plante, donc toutes nos chances de reprise sont augmentées. C'est pour ça qu'on parle de temps, de durée de temps. Et c'est pour ça que, par exemple, en pépinière, on met à peu près 3 ans la plante en place et on la transplante. Et tous les 3 ans, comme ça, on fait une transplantation pour avoir toutes ces racines dans un minimum de volume de terre possible. Et dans le terrain, ma foi, quand on plante, en général, on se dit toujours que c'est définitif. Mais il y arrive quelques fois où c'est qu'on doit réagir. Et là, justement, on doit faire une approche un peu différente avec un travail plus conséquent.
Fabrice, c'est quoi la bonne saison pour transplanter un arbre? Parce qu'il y a beaucoup de variétés d'arbres. On peut tous, par exemple, les transplanter maintenant?
Alors, en général, on attend le repos de végétation, exactement. On fait ça à partir de la mi-octobre, fin octobre, le plus souvent pour, selon les régions, pour simplifier la chose. Et puis après ça, on le fait jusqu'à fin mars. Ça, c'est la meilleure période pour la majorité des végétaux. Après, par rapport à ça, justement, ça dépend la dernière fois quand il a été planté. Si on a fait une erreur de plantation, si on doit refaire des travaux pour le passage d'une conduite ou quelque chose comme ça, on peut travailler en dehors de saison en prenant plus de précautions. Mais si on veut faire les choses correctement, on travaille dans cette période-là.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy, nous parlons de transplantation d'arbres. Alors Fabrice, vous allez nous expliquer comment ça se passe concrètement. On va prendre 2 cas, un arbre qui peut se transplanter sans l'aide d'un professionnel, et vous nous expliquerez ensuite comment vous et votre équipe faites pour déplacer de plus grands végétaux. Alors, on va partir sur la transplantation d'un pommier, par exemple. On va dire que c'est ce dernier à 4 ans de plantation, qui mesure presque 2 mètres, mais il n'est pas à la bonne place. Alors, comment on fait à la maison, tout seul, avec sa pelle et son seau?
Alors, tout d'abord, dans la première approche, on va regarder la plante, si on peut l'approcher correctement. Donc, on va considérer la partie aérienne. Et si on voit qu'on a des branches qui nous gênent, pour ne pas les casser, on peut les attacher, en faire un petit ballot. Et puis après, autrement, ce qu'on peut faire, c'est même tailler directement si on voit que cette taille peut être après directement constructive pour sa reprise. Dans un deuxième temps, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la terre pour revenir gentiment jusqu'aux racines. On va enlever la couche herbeuse pour enlever justement ce surplus de terre qui ne nous sert à rien puis qui va nous alourdir la motte pour le transport, mais sans toucher les racines, sans les abîmer. Donc à partir du moment donné où c'est qu'on arrive aux racines, on arrête de descendre en profondeur. Après ça, on va le faire grosso modo jusqu'à l'aplomb extérieur des branches de la couronne, ce qui nous donne une idée à peu près des racines, du système racinaire, jusqu'où il s'est développé dans sa longueur. On va cercler tout ça sur une largeur de bêche. Comme ça, on devrait tomber sur les racines. Et après, à partir de ce moment-là, on va commencer de revenir contre le tronc de l'arbre en enlevant la terre petit à petit, mais plutôt avec une bêche à dents pour ne pas blesser les racines toujours. Ça, c'est ce qu'il faut faire en maximum pour ce genre de plantes qui sont des plantes à feuilles, donc qui nous permettent de faire ce travail à racines nues. Pour un conifère, par exemple, ça, on ne fera pas diminuer la motte parce qu'on doit prendre toutes les racines et là, on va faire une motte avec toute la terre. Donc, une fois qu'on a délimité cette plante, qu'on a retrouvé nos racines, puis qu'on est revenu contre le tronc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser pour passer en dessous, pour avoir un maximum de racines, toujours en enlevant un maximum de terre pour alléger la plante. Après, on va en garder un petit peu, on ne va pas complètement dépouiller ça. Puis une fois qu'on est en mesure de porter la motte avec un maximum de terre autour de ses racines, on va le déplacer jusqu'à l'endroit où c'est qu'on va le planter définitivement. Pour ça, on va le mettre en place et on va s'assurer de mettre tout autour des racines une terre meuble de bonne qualité pour que l'enracinement puisse se faire le plus vite possible, pour que toutes ces petites racines puissent se redévelopper très très rapidement. Et avec ça, on va faire après une cuvette de plantation quand on va remettre la couche supérieure de terre. On peut reprendre par exemple la couche herbeuse qu'on avait enlevée, retourner les herbes contre le fond, les racines en l'air. Et puis ça, c'est ce qui nous fera aussi un engrais vert par la même occasion. Donc on va faire cette petite cuvette. On va le tuteurer pour que les premiers mois de l'année, on ait un arbre qui s'ancre. Il ne sera pas ancré, donc il faut l'aider à s'ancrer. Donc le tuteur va nous aider à stabiliser la plante. Et puis ensuite, on va veiller à y apporter un petit peu de fumure. Et on va veiller aussi à y apporter régulièrement de l'eau si c'était nécessaire pendant les premiers mois de la saison pour que cette reprise se fasse aisément. Et puis si on n'avait pas taillé cette plante, eh ben, à ce moment-là, on va la tailler pour augmenter ses chances de reprise en créant une proportion juste entre le système racinaire qui aura justement un peu diminué et la partie aérienne pour que la reprise se fasse le plus vite possible.
Merci beaucoup Fabrice. Avec tous ces conseils-là, vous n'arrivez pas à transplanter votre arbre tout seul chez vous à la maison. On ne sait plus comment faire, mais allez savoir, des fois il y a des arbres qui sont un peu plus compliqués. Et on va en parler dans la suite des jardinières avec votre métier de paysagiste, Fabrice. Mais juste avant ça, on fait un petit détour par le trafic et la météo. À tout de suite.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin et nous sommes en direct jusqu'à 8h. C'est Fabrice Rondet, paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-en-Truy qui répond à toutes vos questions.
Et on les attend avec impatience et pas d'excuses, vous avez trois possibilités pour nous poser vos questions par téléphone. Vous composez le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire par SMS, vous tapez le mot jardin, un espace, votre question que vous nous envoyez au 939 ou via le formulaire internet qui est disponible sur la page des jardinières avec la possibilité d'y joindre une photo. Et là, lâchez-vous sur les détails.
Fabrice, en première partie d'émission, vous nous avez parlé de la transplantation d'arbres. Comment le faire chez soi? Alors, si vous avez loupé cette partie, elle sera réécoutée en podcast en cours de matinée. Et vous, dans votre métier, Fabrice, de paysagiste, vous êtes appelé pour transplanter des arbres. Alors, on imagine que vos clients vous appellent pour des arbres plus grands.
Plus que 2 mètres.
Voilà. Comment est-ce que vous procédez?
Alors nous, ce qu'on fait en fait, dès qu'on passe à des tailles un peu plus conséquentes, avec des poids un peu plus importants, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des machines, style une petite pelle hydraulique de la taille qui correspond à la plante qu'on doit bouger. Et le travail est toujours le même. On a une première approche que l'on va faire avec manuellement pour aller rechercher à enlever la croûte herbeuse. Et puis redescendre jusqu'au niveau de la racine. Après, on va de nouveau, toujours manuellement, regarder pour cercler la plante, si c'est une plante de petite à moyenne dimension. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on va passer sous la motte pour après éventuellement mettre un treillage en place pour tenir cette motte correctement. Ou alors, on peut utiliser de la toile de jute, des choses comme ça pour tenir cette motte. Et après, on peut prendre des moyens de levage avec ces pelles hydrauliques pour déplacer en fait ou charger cette plante pour aller l'emmener sur le prochain emplacement où c'est qu'elle doit être plantée. Après, on peut, dans des cas vraiment très importants, faire même le travail de cerclage toutes ces choses-là directement à la machine. Et puis après, on peut toujours aller chercher manuellement sous la motte pour aller couper les racines, pour préserver cette motte. Mais après, on a toujours le même travail d'emprisonnement de cette motte, si on peut dire comme ça, avec des treillis ou avec de la toile de jute, pour après utiliser ces moyens de levage pour la déplacer sur le chantier ou alors la charger et l'évacuer sur un autre chantier ou en pépinière pour lui redonner une deuxième chance de continuer sa vie.
Fabrice, on en a parlé avant dans l'émission, il y a la transplantation que l'on peut faire avec une pelle et son seau, comme le disait Mylène, à la maison. Vous pouvez le faire également, vous, en tant que professionnel, mais il y a des tailles d'arbres qui nécessitent des gros engins. C'est quoi pour vous l'arbre que vous avez le plus grand que vous avez transplanté ?
Oh ben c'était il y a quelques années, on avait dû changer un carré de pépinière et on avait toute une série de plantes de haut port, c'est-à-dire on avait des arbres qui faisaient dans les 6-7 mètres facilement à 8 mètres et puis on avait différentes plantes comme des tilleuls, comme des érables. On avait aussi des mélèzes et puis on avait quelques aussi très beaux cèdres qu'on avait transplantés à cette époque-là. Donc on les avait transplantés, puis aujourd'hui ça doit remonter à une quinzaine, vingtaine d'années, et aujourd'hui encore ils se développent très très bien.
Justement Fabrice, la transplantation c'est bon ou mauvais pour un arbre au final ?
Bah, disons que c'est bon parce qu'il faut pas tronçonner et puis racheter du nouveau. Donc c'est bon dans ce sens-là où c'est que si on a un beau sujet qui est équilibré, qui est parfaitement sain, ben oui, c'est déjà bien. Après, c'est bon pour la plante dans un sens plus précis de sa santé. Donc ce qui va se passer, c'est que on va relancer le système racinaire. Mais dans un premier temps, on aura un effet sur la plante qui va calmer en fait la végétation. Donc la première année, on aura une plante qui va diminuer en croissance. Donc il faudra un petit peu la bichonner, il faudra un petit peu la surveiller, comme on disait avant, au niveau du tuteurage et puis au niveau de l'arrosage. Après, on va faire attention aussi à y apporter de la fumure pour réexciter un petit peu la végétation. Parce que sur certaines plantes, on peut les tailler, comme on a vu pour les feuillus, pour créer un équilibre entre la partie justement des racines qu'on a supprimées. Mais par contre, sur des plantes comme des conifères, on ne peut pas les tailler pour les diminuer, pour créer cet équilibre. Donc là, on a des soins un peu plus particuliers, un suivi, un œil un peu plus aiguisé à avoir pour avoir une reprise justement par rapport à cet équilibre qu'on a cassé. Mais au niveau de ça, effectivement, en pépinière, on le fait volontiers. Ça, c'est un autre département de notre profession où c'est que le fait de transplanter un arbre régulièrement nous permet d'obtenir des plantes pour placer chez des clients qui peuvent faire des tailles, comme on l'a vu avant, de plusieurs mètres de hauteur pour arriver à une plantation autour d'une propriété avec des arbres qui peuvent être à l'étage adulte pour certains arbustes ou à des âges déjà très avancés pour des plantes plus grandes. Donc on peut avoir un effet autour de sa maison déjà qui est remarquable d'entrée de jeu. Ou si alors on veut acheter un fruitier puis tout de suite avoir des fruits, on peut très bien acheter des plantes extra fort. Et au lieu d'attendre tout ce développement à la maison, avoir déjà une plante qui a plusieurs années, voire même 15-20 ans, et puis le planter directement en place. Mais là, ça demande vraiment beaucoup plus d'attention. Mais tout ça nous permet de faire ces choses-là.
Merci beaucoup Fabrice Anson, hein, dont vos réponses, toute la passion de la nature, et merci à vous de partager tous vos conseils à chaque fois que vous êtes avec nous dans les jardinières. Et vos conseils, vous allez continuer à les donner dans quelques instants, puisque l'on reçoit quelques questions sur notre site internet. Vous n'hésitez pas à les poser également en direct, 0951 70 20 20. On y répond dans quelques minutes.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Alors, on a parlé des arbres qui sont plutôt à l'extérieur. Fabrice, nous avons reçu une question, oui, avec une plante d'intérieur par chez nous, parce qu'on va parler d'un avocatier. C'est Sonia Drenan qui vous pose la question. Bonjour, j'ai un avocatier que j'ai moi-même fait pousser, qui aura 5 ans en avril prochain. Elle vous demande comment est-ce que je peux le tailler. Je pensais aussi changer le pot, car il semble peut-être un peu petit. Merci d'avance pour vos conseils. Alors Fabrice, il y a une photo qui accompagne cette question. Je vous laisse peut-être la décrire.
Alors, on a une plante qui doit faire à peu près 60-70 cm de hauteur, je dirais, par rapport à la taille du pot. Et puis, ensuite, au bout de ces 60-70 cm, on a une branche qui part quasi à l'horizontale. Ça fait quasi un angle droit. Et puis, on a une branche qui part en direction du mur. Et puis, donc là, au niveau de la taille, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on pourrait profiter de la taille, donc de couper très proprement avec un sécateur qui est très bien aiguisé directement le long du tronc, cette branche qui part à 90 degrés. Et puis, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est plonger tout ça dans un terreau humide et puis faire peut-être un petit emballage pour faire un milieu adéquat pour une reprise de racines, ou alors mettre tout ça dans un pot d'eau et puis ou dans une bouteille pour redévelopper un système racinaire pour refaire une deuxième plante. Après, c'est vrai qu'au niveau du pot, on pourrait imaginer de le changer de pot, mais je ne sais pas si ça fait longtemps parce qu'on a des plantes comme ça qui peuvent très bien se plaire dans un pot comme ça. Donc on a un petit test qu'on pourrait faire, c'est tout simplement laisser ressuyer un tout petit peu cette motte. Et puis après, tirer cet avocat hors du pot et regarder si la racine, en fait, elle tourne autour de la motte. Si elle tourne autour de la motte, ça veut dire qu'en fait, elle a l'étroit. Et là, il faudrait la rempoter.
Merci beaucoup, Fabrice, pour vos précieux conseils. On passe à cette question de Claudine de La Chaux-de-Fonds. J'ai une amaryllis qui a fleuri l'an dernier. Elle a passé la belle saison au grenier sans eau. Je l'ai arrosée dès le mois de décembre. Elle a refait de belles feuilles, mais pas de fleurs. Comment l'aider à refleurir ?
Alors, ce qui pourrait être peut-être pas mal, c'est tout ça, il faut de l'énergie, il faut de la nourriture pour que ça se passe bien. Donc, il faut recréer un équilibre. Donc, ce qui pourrait être fait, c'est rapporter un petit peu de terreau très légèrement pour lui rapporter un petit peu de la structure et de la nourriture. Et puis, apporter peut-être une fois par semaine un engrais liquide pour apporter tous les éléments nutritifs qu'il lui faut pour développer une floraison.
Fabrice, je ne connais pas les amaryllis, du coup ça me titille. Ces plantes doivent passer la belle saison à l'intérieur, au grenier.
Alors en général, c'est des plantes qu'effectivement on laisse se développer tranquillement toute la saison, qui donne une magnifique floraison. Et puis après, cette floraison, elle passe. On a la tige aussi qui passe. Et on va couper ça très proprement. Et à ce moment-là, on les remet en repos végétatif dans un endroit à l'abri de la lumière, bien aéré. Et puis on les laisse se reposer pour après relancer une végétation la saison suivante et redémarrer ainsi de suite.
Merci Fabrice. Il reste quelques minutes si vous avez envie vous aussi de poser vos questions à Fabrice. Raphaël, je pense qu'on peut vite rappeler le numéro de téléphone si quelqu'un a une question qui lui brûle la langue mais ne sait plus comment faire.
Et puis lui brûle les doigts surtout parce qu'il va falloir composer le numéro, hein, surtout 0 901 70 20 20. Vous nous appelez maintenant pour poser votre question en direct à Fabrice. N'hésitez pas, ne faites pas les timides, on l'attend avec impatience.
7h, 8h, les jardinières.
7h52 chez les jardinières et sur les dernières minutes, un coup de téléphone, Raphaël.
Exactement, on a Marianne qui a pris son courage à deux mains pour nous appeler. Bonjour Marianne, votre question à notre professionnel.
Bonjour à tous.
Bonjour Marianne.
Je crois que c'est un miracle de la nature. Le 20 décembre 2020, j'ai acheté une belle étoile de Noël. Magnifique, pas très grande, le pot 15 cm, voyez. Je l'ai soignée, j'ai bichonné, elle est restée toute magnifique. Et en décembre 21, qu'est-ce qu'elle me met toutes les feuilles rouges? C'est un miracle, mais ça arrive souvent.
Non, mais ça veut dire que vous avez fait exactement ce qu'il fallait au niveau de... Oh. Je pense que vous l'avez rempoté.
Même pas. Je comprends pas.
Normalement, pour que ça se passe bien, toute plante doit vivre plusieurs années pour ce qui est vivace. Donc, si vous apportez ce qu'il faut en nourriture, comme on l'a vu au niveau des terreaux, ou bien au niveau des engrais qu'on peut apporter sous forme liquide ou des petits bâtonnets, des choses comme ça, que vous rempotez un peu la plante, que vous faites un arrosage juste, que vous faites aussi un emplacement dans la maison qui est juste au niveau de la lumière, que vous ne la mettez pas dans des courants d'air, que vous ne la mettez pas en contact avec une source chaude comme un radiateur ou bien tout de suite derrière une fenêtre, vous pouvez avoir des plantes qui durent très très longtemps. Donc ça veut dire que voilà, vous avez juste réuni tous les facteurs qui étaient importants pour que cette plante vous redonne tout ce qu'elle a à donner.
Magnifique, alors ça avait des feuilles vertes, des feuilles, il y a de temps en temps une feuille jaune, mais ça c'est pas grave. Mais j'ai jamais mis d'engrais, mais un petit secret, je l'arrose avec de l'eau minérale, des bouteilles.
Ah ben voilà, l'eau de pluie va très bien aussi.
C'est ça, ou bien
non, je pense pas que ce soit l'eau minérale qui soit le secret. Je pense plutôt que c'est plutôt l'emplacement, c'est que vous l'avez mis, qui gentiment fait que. Mais moi, je vous donnerais juste un petit conseil, c'est que apportez-lui au niveau de l'engrais, du rempotage qu'il lui faut, parce que tout d'un coup, on a des plantes comme ça, quand elles se sentent menacées aussi, elles peuvent redonner quelque chose et après, elles peuvent aussi tout d'un coup faire ça pour assurer leur survie. Donc, veillez à ce rempotage, veillez à y apporter la nourriture qu'il lui faut, changez pas son emplacement, continuez d'arroser comme vous avez l'habitude de le faire, parce que ça c'est important de ne pas trop arroser ou de ne pas espacer trop les arrosages. Donc, ça c'est tout bon.
Elle boit beaucoup, hein. Ouh là là.
Alors, elle est magnifique. Oui, il n'y a pas que les plantes qui boivent beaucoup.
En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Merci de nous faire croire penser que ces plantes
miracle de Noël
ne tiennent pas que la saison de Noël. Parce que souvent, les étoiles.
Les miennes, au bout de 3-4 mois, c'était terminé.
Et vous n'êtes sûrement pas la seule dans ce cas.
Ouais. Merci beaucoup, d'accord, Marianne, pour votre appel.
Merci,
bonne émission.
Merci beaucoup.
Bon week-end, au revoir.
Merci à vous.
En première partie d'émission, Fabrice nous a parlé de transplantation d'arbres, sujet à réécouter en podcast sur la page des jardinières. Ce sera tout à l'heure en cours de matinée. Fabrice, avant de vous laisser filer, dites-nous, en ce dernier week-end de janvier, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin rapidement ?
Ben, comme on l'a vu actuellement, le principal de la tâche, je pense pour ce mois, le mois de février et puis le mois de mars, c'est tout ce qui est taille. Et puis ensuite, va revenir tout de suite derrière, dès que le climat nous permettra de travailler au niveau des terres d'une façon un peu plus régulière, sans trop de gel, pas de neige pour les régions, c'est qu'il y a un peu de la neige, ce sera les plantations. Donc pour l'instant, là tout de suite, je pense qu'on met l'accent sur la taille pour la majeure partie des personnes.
Merci beaucoup Fabrice, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Fabrice Rondet SARL à Port-Rontruy. On vous souhaite un bon week-end, on vous dit à très vite chez Les Jardinières.
Alors je vous remercie, puis je vous souhaite à tous un très bon week-end également.
Merci Fabrice. Les Jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h et nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous, et surtout et toujours, prenez soin de vous.
7h, 8h, Les Jardinières.